Bonjour, c'est le MAG sur Topic FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone Guillaume Basile, le chanteur du groupe de reggae Marlichois d'Anakil. Balik, bonjour.
Salut.
Alors les Marlichois, et Cyril, bonjour.
Bonjour Michel, bonjour Balik.
Salut.
Alors les Marlichois ne sont pas des bêtes curieuses, hein, mais les habitants de Marly-le-Roi, commune de 17 000 habitants située dans le département des Yvelines. Alors à l'instar des Lyonnais, les Yvelinois sont connus pour leur mauvaise conduite à bord de leur véhicule. Tu me confirmes ou c'est juste une impression que j'ai eue en parcourant l'Île-de-France pendant près de 10 ans?
On dit souvent ça des Parisiens en général. Moi je pense que la catastrophe est encore plus grave dans les rues de Paris que dans les boulevards des Yvelines.
D'accord.
Je défends mon coin.
Oui, oui. Ouais, j'ai pas eu la même impression, mais ça fait rien. Allez, tous les membres de Anakil sont originaires de Marly-le-Roi même.
Ouais, quasiment. En tout cas, la grande majorité.
D'accord, alors on parle des 8 membres de Anakil, hein. Il est temps de les présenter.
Ben maintenant, on est même 10 sur scène là, sur la tournée de cette année. Donc voilà, il y a Boris à la basse, il y a Titi à la batterie, il y a des trois cuivres, Jacques, Das et puis Tom, voilà, il y a Smart au clavier, Duce à la guitare, Fab à la guitare aussi, puis on a Napijon qui est avec nous maintenant, voilà, et moi-même.
Bien.
J'espère que j'ai oublié personne, sinon ils m'en voudront.
Non, donc tu parlais de 10, ma question était la suivante, les 8 membres d'Anakil sont les mêmes depuis les débuts du groupe, ou la formation s'est étoffée et stabilisée avec le temps, donc voilà.
C'est ça. Il y a eu quelques petits changements en fait au fil des années parce qu'on a commencé tôt, donc les études ont fait déplacer un petit peu les gars, mais quand il arrive, ceux qui sont revenus en cours de route étaient déjà à la même époque dans la même bande de potes et jouaient dans d'autres groupes d'à côté de potes. Voilà, c'est une fusion de musiciens de Marly-le-Roi.
D'accord. Alors sur Wikipédia, sur la page consacrée à Marly-le-Roi, dans la partie personnalité liée à la commune, il est indiqué que, je cite, hein, le groupe d'Anakil, il fit ses débuts en 2000. Alors ça fait quoi d'être cité au même titre qu'Alexandre Dumas fils, François-Henri Duvirieux ou Alfred Sisley? Vous avez l'impression d'être des personnalités de la ville de Marly-le-Roi, même si vous n'y habitiez plus forcément?
Alors, déjà, c'est la première fois que j'entends cette information, je ne savais pas. Donc, c'est marrant. Sympa, j'ai pas de ça, c'est pas spécialement non plus, c'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt sympa.
Ouais.
La médaille de citoyen d'honneur est pour bientôt, hein.
Ah, qui sait, mais on est encore sur Marly en plus, hein. On y est encore pour l'instant, donc faut les titres de citoyen d'honneur, on les donne que quand les gens sont morts, donc on va attendre encore un peu.
Oui, on va attendre un peu, ouais, t'as raison.
Alors, vous apparaissez donc sur Wikipédia dans la partie personnalité liée à la commune, mais ni dans la partie culture, ni dans la partie patrimoine. La musique et le reggae en particulier ont moins la cote que la Brevoire ou le Parc Royal.
Ah bah ça, il faut demander à la commune de Marly-le-Roi, hein, mais non, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'espère que non, j'espère que la musique et que la culture sont importantes pour nos têtes pensantes de Marly-le-Roi. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas plus liés que ça. On n'est même pas du tout lié à la mairie ou aux instances municipales, mais voilà, non, ça fait plaisir de faire résonner un petit peu le nom de notre coin quand même, quoi.
Mmh. Alors Anakil a fêté l'année dernière ses 10 ans d'existence. Tu te rappelles des débuts du groupe? Vous étiez bien loin de ce que vous êtes aujourd'hui.
Ah ouais, bien sûr, hein, c'était ça avait rien à voir et je m'en rappelle très bien, quoi. Ouais, c'est clair. On a commencé un petit peu comme tout le monde dans les toutes petites MJC de quartier, les toutes petites salles à côté de chez nous, quoi. Puis on a commencé sans faire de concert, d'avoir les premières répètes à côté, entre Marly et Loucienne qui est juste à côté. Ouais, je me rappelle très bien de cette époque-là, ouais, c'est clair.
Ouais. Donc Marly est plus connu pour ses chevaux que pour sa scène reggae. Il y en avait forcément une lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure.
Il y avait forcément quoi, pardon?
Une scène reggae.
En France ou à Marly?
À Marly.
Ouais, exact. Il y avait à Marly, il y a un groupe en fait, en tout cas, qui quand on était au lycée nous a poussé, nous a donné envie. C'est un groupe, c'est nos d'un an ou deux à peine, quoi. Mais effectivement, c'est eux qui jouaient les premiers dans les MJC de Marly-le-Roi et du coin qu'on allait voir. D'ailleurs, aujourd'hui, le groupe d'Anakil, c'est un peu la fusion de ces deux groupes-là. Ce groupe s'appelait les Chacals. Et si je regarde, notre clavier jouait dans les Chacals, notre trompettiste aussi, notre guitariste aussi. Voilà, c'est une fusion de ces deux groupes-là, justement, d'Anakil aujourd'hui.
Vous étiez tous forcément fans de reggae?
Ouais, forcément. Ouais. Je pense que quelque part, il y a plein d'autres influences, mais on est tous bercés par cette musique.
Ouais. Alors, vous avez choisi comme nom de groupe d'Anakil un désert situé entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mais aussi l'autre nom des Afars, un peuple d'Éthiopie et d'Érythrée et de Djibouti. Dans Anakil est le pluriel de l'arabe d'Ankali. Alors, quel rapport entre Marley Leroy, le reggae, quel rapport entre Marley Leroy, le reggae et cette région d'Afrique de l'Est? Vous aimez la chaleur et le sel?
Ouais, je pense que le reggae et l'Éthiopie ont une histoire proche, puisque le reggae est prôné par les Rastas, qui ont dans la mythologie et dans la mystique, enfin dans l'histoire tout simplement qui prône le retour à la terre des rois, à la terre d'Éthiopie, le berceau de l'humanité. Donc il y a toute une symbolique. Et puis c'est vrai qu'on a remarqué que c'était aussi, on a lu que c'était l'endroit où il faisait le plus chaud sur Terre. Ça nous a plu forcément. C'est aussi l'endroit le plus bas au-dessous du niveau de la mer qui existe sur Terre. Donc toutes ces petites choses et une sonorité qui nous convenait bien. Il y a 10 ans, quand on a eu à faire le premier concert, voilà, on a mis ce nom-là sur le flyer, sans savoir d'ailleurs si on garderait ce nom-là longtemps ou pas. Et puis tu vois, 10 ans après, on l'a gardé. Quoi.
Alors, Anakil est également le nom d'emprunt d'un photographe et réalisateur français.
Ouais.
Vous n'avez jamais essayé de travailler avec lui, ce qui paraîtrait une évidence, vu vos noms d'artistes communs?
Ouais, alors non, moi j'ai vu pas mal de trucs, du coup, par la force des choses de Anakil en tant que réalisateur sur YouTube notamment. Il y a des bonnes choses, je l'ai vu sur des interviews, il dit des choses super intéressantes, mais non, on s'est jamais rencontré. Nous, on a en termes de réal notre petite équipe de potes de Marie Leroy aussi, voilà, avec qui on travaille depuis des années, quoi, qui s'appelle les Quacks. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas, cherché plus loin.
Mmh. Alors, votre première grande tournée date de 2005 et votre premier album Microclimat est paru en 2006. Ça a mis un certain temps à se mettre en forme. Vous partiez de zéro ou presque, sans forcément d'expérience musicale avant vos débuts en 2000.
Ouais, tout à fait, on est vraiment parti de zéro, chacun s'est mis à son instrument avec ce projet-là pour le plaisir, sans jamais réfléchir à très long terme. On était dans le plaisir de la musique, de faire des petits concerts en mois de juin, en fait, de la musique pour les potes entre ici et puis les quelques villes d'à côté. Voilà, c'était un petit peu l'idée de départ. Après, comme il y a eu du monde au concert, comme ça plaisait aux gens, et voilà, l'engouement a poussé le projet, et puis finalement on a continué en montant les marches les unes après les autres. Voilà, on a mis plus de 10 ans, quoi, pour réussir à vivre de la musique. Donc mais je pense que ça a jamais été une obsession. On faisait notre truc en voyant où ça nous portait, quoi.
Ouais. Alors, dès vos débuts, la scène a joué un très grand rôle, même si les enregistrements sont importants, rien ne remplace les concerts. Votre envie de rencontrer un public et de voyager a toujours été en vous, plus que rentrer en studio?
Disons que c'est très complémentaire, les deux choses. Je pense qu'on a d'abord, bien avant de faire du studio, en fait, on a fait des concerts. C'est-à-dire, pendant 6 ans, on n'a fait que des concerts sans faire une seule session studio. C'est pour ça que c'est l'initiation, quoi. C'est comme ça qu'on s'est initié, c'est comme ça qu'on s'est fait. Donc c'est pour ça qu'on vit toujours un groupe de scène, même quand on parle de nous. Maintenant, c'est vrai que le studio, c'est une expérience géniale. Moi, c'est des moments que j'adore. Je pense qu'on adore tous. Alors, c'est beaucoup plus rare que les concerts, puisque c'est une fois de temps en temps, une fois tous les 2 ou tous les 3 ans, alors que les concerts, c'est des dizaines et des dizaines de fois par an. Mais je pense que moi, j'adore ça, quoi. J'adore le fait d'être en studio, de construire, de maqueter. C'est un travail de précision. On écoute, on réécoute, on réfléchit, on superpose les voix, les arrangements, les cuivres. C'est vraiment super intéressant. Je pense qu'on s'éclate tous aussi en studio. Mais c'est vrai que c'est malgré tout sur scène que, par rapport aux gens, on peut donner le plus, exprimer le plus, et qu'on peut recevoir aussi le plus, observer les réactions, les visages des gens, voir ce que provoque la musique réellement, quoi. Mmh.
Alors, c'est vrai qu'il faut préciser, pour ceux qui vous connaissent peut-être moins bien que nous, vous êtes des tourneurs fous, hein. Pour donner un exemple, le 8 vous êtes dans le Calvados, le 9 dans le Luxembourg, le 10 à Niort, le 11 à Tarbes, le 12 dans les Landes et le 13 dans la Haute-Garonne. C'est vrai que c'est quand même un rythme assez fou à tenir. Vous avez prévu quelques surprises sur cette tournée, puisque vous avez quand même pas mal d'invités là, sur ce dernier album Écho du Temps. Donc est-ce que vous avez prévu quelques surprises pour la nouvelle tournée?
Déjà oui, nous en fait de toute façon on a réadapté notre concert de A à Z, c'est-à-dire que tout le set, comme on dit, le set list est nouveau, on joue beaucoup de nouveaux morceaux, on garde quelques anciens morceaux, donc par rapport au concert que vous avez pu voir précédemment, ça a rien à voir, tout a changé sur scène, on a essayé d'apporter un petit plus en visuel aussi, en mettant un espèce de petit décor contre un mal avec nous à droite à gauche. Alors les invités, les surprises, comme c'est pas évident à organiser, il y en a, oui, effectivement, qui vont venir à droite, à gauche, quand on passe dans leur coin, dans leur région, qui vont nous rejoindre sur scène, dans différentes salles, et puis une concentration d'invitations, évidemment, pour le Zénith, qu'on fera le 18 mars, vendredi 18 mars. Donc là, on aura plein d'invités ce jour-là. On a même carrément appelé ça Dan Akil and Friends, quoi. Mm-hmm.
Dan Akil a fêté, donc je disais, ses 10 ans d'existence l'année dernière. C'était l'occasion de souffler un peu, puis de faire le point sur le groupe et sur la suite que vous vouliez lui donner.
Pas vraiment, on n'a pas spécialement réfléchi à ça à cette occasion, mais en réalité, on a fêté l'année dernière, c'est vrai, les 10 ans au mois de septembre, les 10 ans de la première répète, quoi, de la première formation. Mais on fêtera les 10 ans du premier concert mi-mars, là, dans une dizaine de jours. Je crois que c'est autour du 15 ou 16. Ça fera 10 ans jour pour jour qu'on a fait notre premier concert. Donc je pense qu'on va quand même arroser ça. Hein. Va falloir fêter ça. Hein. Et puis la réflexion sur les 10 années qu'on a passées, je pense qu'on l'a un petit peu quotidiennement. C'est un petit peu, elle faisait partie aussi de l'état d'esprit au moment de la création de l'album. C'est peut-être un peu pour ça qu'on l'a appelé Écho du Temps aussi, ce nouvel opus. C'est que voilà, effectivement, c'est quelque part dans nos têtes. On a ce bagage, on réfléchit, en même temps on réfléchit sur la suite et on regarde un petit peu derrière ce qui s'est passé pour en tirer les enseignements.
Ouais. Donc vous êtes donc reparti pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles chansons. Votre amour pour les voyages vous a emmené sur deux continents où le reggae a ses racines, hein, l'Afrique bien évidemment et l'Amérique centrale et bien évidemment aussi la Jamaïque. Les morceaux ont été écrits avant de partir à Bamako et à Kingston où l'inspiration est venue sur place.
Moite, on avait quand même bien avancé avant de partir parce qu'il faut être prêt quand on arrive dans les studios. Évidemment, ça s'improvise pas. Donc, on avait quand même beaucoup travaillé, notamment en amont du voyage à Kingston parce qu'on est resté un mois là-bas et qu'un mois passe très vite. Et pour le même si on a quand même écrit un ou deux morceaux sur place. Hein. Et puis un petit peu pareil pour le Mali, on avait moins bossé quand même avant de partir au Mali parce qu'on est parti là-bas deux mois, donc on était plus tranquille, on avait plus de temps pour répéter. Donc moi j'avais quelques textes, les musiciens avaient quelques musiques, mais on n'avait pas encore mis en commun tout ça, donc on a beaucoup plus travaillé sur place au Mali quand même.
Mmh. Alors enregistré à Kingston, la ville du roi Marley le roi, je dirais, de Peter Tosh ou de Burning Spear, et tout sauf au hasard, j'imagine, pour tout groupe ou fan de reggae, c'est presque un pèlerinage obligatoire.
Ouais, c'était ça, obligatoire. Bon, il y a rien d'obligatoire, mais un pèlerinage, ouais, c'était, on avait envie d'aller voir de nos yeux, c'est vrai, ce que c'était que cette île, comment ça fonctionnait. Puis, on n'est pas déçus parce que c'est vrai qu'on a appris aussi de la manière de travailler dans les studios à la jamaïcaine, quoi, un petit peu one shot, quoi. Et puis voilà, on est passé voir tous ces studios mythiques dont on lit le nom sur les dos d'albums depuis qu'on a 15 ans. On a rencontré un nombre incroyable de musiciens, de chanteurs, de batteurs, de bassistes au détour des studios justement. Donc c'était un petit peu une forme de pèlerinage en quelque sorte, c'est vrai.
Dans les groupes de reggae, on adore les collaborations, hein, ce ne sont pas nos amis de Broussailles qui nous contrediront. Qui est venu jouer et chanter avec vous en Jamaïque?
En Jamaïque, on a enregistré avec Winston McAnuff et son fils Matthew McAnuff, qu'on avait rencontré sur les différents concerts en festival en 2009 à Dour, au Sunska, qu'on avait rencontré plusieurs fois. On s'était côtoyé même dans des chambres d'hôtel voisines à la fin des festivals et des concerts, donc on avait prévu de se retrouver là-bas. On a retrouvé U-Roy aussi, avec lequel on a fait un featuring, un morceau sur la reprise d'Edith Piaf. Et puis voilà, on a retrouvé nos potes de Roots Underground avec qui on avait fait une grande tournée en octobre. On a retrouvé plein de gens qu'on avait croisés, plein d'artistes, plein de chanteurs aussi qu'on avait croisés sur les festivals ou sur les différents concerts de ici en France, parce que les Jamaïcains viennent beaucoup en France.
Ouais. Alors pour beaucoup, le reggae c'est avant tout la Jamaïque. Vous êtes allé aussi enregistrer, on le disait, à Bamako au Mali, dans le studio d'un Rastat Barbès, celui de Mandjoul, c'est un Français expatrié sur le continent africain depuis plusieurs années. Vous aviez besoin de retrouver d'autres racines, celles de la musique en général et pas uniquement celles du reggae?
Ouais, c'est vrai. Et puis il y a un peu de ça. Il y a aussi un peu du fait que de toute façon le reggae est aussi très lié à l'Afrique. Et puis moi aussi je me sens lié à l'Afrique. J'y étais beaucoup de fois. J'y étais pas mal de fois. J'y ai même grandi en fait quand j'étais plus jeune. Et donc envie d'y retourner, de passer un peu de temps là-bas. Envie aussi au niveau du son d'aller chercher des sonorités un petit peu, des percussions, des voix un peu traditionnelles, de métisser l'album et de faire ressentir le voyage justement dans le son, quoi. Mmh.
Alors, à travers vos textes, c'est vrai que Danakil a toujours tenté de faire passer un message de paix et de fraternité entre les peuples. J'imagine qu'en ce moment, vous suivez de près l'actualité internationale.
Oui, j'en essaye.
Ça vous touche? Ça t'inspire quelque chose, non? Tu penses écrire quelque chose éventuellement dessus, ou ça t'a pas plus...
Si, bien sûr, ça nous fait réagir. Après, bon, c'est vrai que tout ce qui s'est passé là, ça s'est passé un petit peu en aval de la composition de l'album. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas, parce que voilà, ça s'est passé pendant et après. Mais effectivement, ça nous fait réagir. Ça nous fait. Il y aura sûrement des musiques qui naîtront de ça, puisqu'effectivement, on écrit un petit peu sur ce qui nous entoure. C'est surtout tu disais la paix entre les peuples, surtout la paix entre les gens, quoi qu'il arrive, qu'ils soient du même peuple ou pas, parce que c'est vrai que on a aussi une démarche française par rapport au texte, c'est-à-dire qu'on parle aussi des choses qui nous concernent le plus directement, donc des problèmes, des troubles sociaux ici chez nous, des problèmes politiques aussi, même si on n'a pas d'étiquette politique. On a celle qui dit qu'on n'est pas pour la politique qui est menée en ce moment, quoi.
Ouais, ou de la place des médias.
Donc voilà. Ouais, on essaye de. Mais je pense qu'effectivement, tout ce qui se passe en ce moment, ça va évoluer encore et ça va nous donner à penser, à réfléchir et on y viendra sûrement.
Alors, le résultat de tous ces voyages et ces enregistrements, donc c'est la sortie, on le disait, le 18 février 2011 chez X-Ray Productions du troisième album de Danakil, Écho du temps. Alors, du temps qui passe ou du temps passé?
Écho du temps, bonne question, tiens. Écho du temps qui passe ou du temps passé, ça doit être un mix entre les deux, je prends pas de risque. mais on se retourne, comme on disait tout à l'heure, un petit peu sur notre parcours. Donc à ce niveau-là, c'est le temps qui est plutôt passé, qui est derrière nous. Et puis en même temps, je dirais le temps présent, quoi, surtout, quoi. C'est un écho du temps présent. C'est la photographie un petit peu du point de vue d'une bande de 10 gars de région parisienne à la trentaine, arrive à la trentaine sur ce qui les entoure, quoi.
Ouais. Alors la pochette représente un sablier où s'écoule non pas du sable, mais des notes, quoi de plus normal, vous allez me dire, pour un groupe de musique. La question est, le sablier se videra-t-il un jour?
Eh bien, bien sûr, le sablier se vide, mais il suffit de le retourner pour que la musique continue de couler.
D'accord.
Il l'avait préparé, la réponse.
non, mais elle s'est imposée à moi.
Alors, le fond de Danakil, à savoir une plume toujours aussi aiguisée, n'a pas changé. La forme se veut toujours aussi poétique, peut-être plus qu'avant.
Peut-être un petit peu. C'est peut-être une question d'âge aussi, je ne sais pas, mais c'est l'évolution en écrivant, les images viennent, je sais pas. Je me suis peut-être laissé inspirer aussi pas mal par des textes que j'ai lus ces derniers temps. Moi, je suis sensible aux images, aux métaphores, aux jolis mots. Donc voilà. Après, j'ai pas encore très bien auto-analysé mon travail, mais en tout cas, j'espère. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est poésie. J'espère qu'on la ressent dans l'écriture de l'album.
Alors, on retrouve, tu le disais, sur Écho du temps, une reprise de Je ne regrette rien avec U-Roy en guest star, comme on dit chez les pros. Edith Piaf en version reggae, c'est une sacrée surprise. C'était pas votre tasse de thé à vos débuts avec Danakil, j'imagine, Edith Piaf?
Moi, j'ai toujours aimé Edith Piaf. J'ai toujours écouté ça à la maison, en même temps que Bob Marley ou Jacques Brel ou Brassens, parce que ça fait partie des musiques qui passaient à la maison, tout simplement. Donc, non, il n'y a pas de... Je crois qu'Edith Piaf, c'est une artiste qui fait l'unanimité au sein du groupe. Après, c'est pas qu'on ait à se taper la tête sur les murs, mais c'est que, justement, quand on parle de poésie, de textes, moi, les textes m'ont toujours intéressé, et pas forcément les textes hip-hop ou reggae, n'importe quel texte bien écrit. On parlait de poésie il y a quelques secondes, Edith Piaf, c'est celle qui nous en a donné le plus, avec Brassens et Brel, que je viens de citer, Léo Ferré, toutes ces grandes figures de la chanson française d'après-guerre. Ça a toujours fait partie de mon patrimoine musical, donc c'est pas du tout une surprise, en tout cas pour ceux qui nous connaissent personnellement, quoi.
D'accord. La chanson Quitter Paname aurait pu s'appeler Quitter Marie Leroy ou Quitter Le Pec, par exemple. Le retour à la terre sacrée, ce n'est pas la Jamaïque, mais l'Afrique, au vu des images de la vidéo. C'est une chanson qui pourrait être autobiographique pour Danakil et toi en particulier.
Ouais, ouais, ça aurait pu aussi être quitter Marseille ou quitter Poitou-Charentes. Enfin, ça, en fait, ça veut dire quitter son coin, quoi, où que tu sois, où que t'habites. C'est l'envie de casser les habitudes, l'envie d'ailleurs, de voir autre chose, de voilà. Et puis l'Afrique, enfin oui, quitter son coin, ça pourrait être aller faire un tour, je sais pas moi, sur n'importe quelle île, ou alors en Amérique centrale, ou en Afrique, ou en Jamaïque. C'est voilà, c'est juste l'envie de respirer autre chose, de casser ses habitudes et voilà, de voyage, quoi.
Mmh. Alors, sur la plupart de vos concerts, les Français, en tout cas, une place achetée égale un album Écho du Temps offert édition limitée spéciale tour.
Ouais.
Vous avez envie de redonner goût au CD et non au vulgaire MP3 compressé à votre public?
Exactement, ça fait partie de, c'est ça, c'est dans cette démarche qu'on est. Il y a plein de raisons que sur ce projet, c'est que bah déjà il y a ça, il y a redonner un petit peu goût à l'objet, il y a pousser les gens à venir au concert, il y a le fait que le MP3 c'est un son dégueulasse où tout est écrasé, où on perd tout l'intérêt du travail d'arrangement qu'on a passé beaucoup de temps à faire, donc on préfère donner l'album. Il y a le côté diffusion de la musique. On va donner 30 000 albums en un mois et demi. Donc voilà, que les gens se les donnent les uns aux autres. Et puis voilà, le côté, le message qu'on adresse aussi aux circuits de distribution qui vendent les CD 20 € en Fnac. C'est une manière de montrer, de prouver aux gens que c'est pas, ça vient pas des artistes, mais bien des distributeurs, puisque les artistes eux-mêmes peuvent se permettre de les donner. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'un CD devrait pas arriver à 18 ou 19 euros en bac. Et donc, voilà, c'est une manière de dénoncer aussi des intermédiaires qui gonflent les prix et qui font que c'est toujours le consommateur final qui paye, quoi. Et en l'occurrence, un CD plus une place de concert, ça approche les 40 €. On est conscient que c'est beaucoup pour les gens, donc voilà, c'était une manière de les remercier aussi, de remercier notre public qui parle bouche à oreille, et depuis toujours on n'a aucun autre soutien vraiment médiatique que les gens, quoi, en fait. On a un soutien plus populaire que médiatique, j'allais dire. Donc ouais, une manière de les remercier et de leur dire que si aujourd'hui on fait des tourner comme ça, c'est un peu grâce à eux aussi.
Ouais. Alors côté média, tu en parlais, on peut pas dire que le reggae soit un style musical mis en avant, à part les radios associatives hein, comme Tropic FM, voilà, et les nombreux webzines sur Internet, et pourtant vous remplissez les salles alors que d'autres, malgré l'appui des médias, ont bien du mal, et je dis pas ça uniquement pour Camilla Jordana. Comment expliques-tu ce succès? On peut parler d'identité reggae.
Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est vrai que les artistes qui sont surinés en radio et en télé vendent plus d'albums, mais je suis à peu près certain qu'au concert, c'est pas la même ferveur, c'est évident, parce que les gens attendent un titre ou deux titres, ceux qui connaissent. La plupart du temps, ils ont pas l'album, c'est un titre radio ou des choses comme ça. Et moi, j'ai vu ça beaucoup en festival où on a partagé l'affiche avec des groupes qui étaient Victoire de la musique ou qui passaient en radio en boucle, et où on voyait les gens. Voilà, moi j'avais l'impression que les gens se faisaient chier, j'étais dans le public, les gens parlaient au lieu d'écouter la musique, et puis hop, quand vient le tube, tout le monde lève la main, on devient fou pendant 5 minutes. Et donc il y a une vraie différence, moi je pense qu'il y a une vraie différence, et puis surtout c'est sur la pérennité d'un groupe que ça se mesure, à savoir que des groupes qui des chanteurs ou quoi, qui ont un titre ou deux titres ou voilà, qui surinent, qui sont très médiatiques, existent pour un temps, mais nous on s'attache en fait à fidéliser les gens qui viennent nous voir, à les trouver, à les retrouver. D'ailleurs la plupart des gens qui viennent reviennent, ou alors c'est pas leur première fois. On essaye voilà de considérer ça, et je pense que le fait que les gens connaissent nos albums et chantent sur presque toutes les chansons, pas seulement sur une ou deux, c'est le juste retour en fait de la médaille, quoi. Et effectivement, le côté underground de la musique fait partie de son identité, fait partie de la ferveur, de tout ça, c'est un tout, quoi.
Ouais. On assimile un petit peu trop rapidement le reggae aux drogues douces, aux dénonciations des injustices ou aux dreadlocks, ce qui est très réducteur. Ces images font partie de l'univers du reggae, mais il n'y a pas que ça, et musicalement parlant en particulier.
Bon, c'est ça, c'est ce qui se voit le plus, donc forcément c'est ce que les gens citent en premier. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Le reggae, c'est surtout une musique forte, quoi, une musique avec une identité, avec presque, j'allais dire, un objectif, quoi. En tout cas, c'est une musique de contre-pouvoir. C'est une musique qui est là pour défendre le peuple, en fait, un petit peu, quoi. C'est la musique du peuple, quoi. Donc, faut pas oublier tout ça. Et même si les grandes figures du reggae ont donné des de, des images, en gros, ou des stéréotypes qui peuvent rester aujourd'hui, comme ce que tu disais au début. C'est pas des choses qu'on renie, quoi, que ce soit la drogue douce, les dreadlocks, ou ce que tu veux, mais c'est pas, nous en tout cas, c'est pas ce qu'on met en avant. On met en avant le message, le fond du message, et puis le combat, quoi. Voilà, comme je viens de le résumer.
Ouais. Ben, merci, Balik, chanteur du groupe Danakil, d'avoir accepté l'invitation de Tropic FM.
Merci à toi, avec plaisir.
Alors, je rappelle que votre troisième album, Écho du Temps, est sorti depuis le 18 février 2011. Et puis, qu'on peut se le procurer, il faut se procurer de toute urgence, ainsi que les deux premiers albums studio et votre album en DVD en public.
Oui, exact. Voilà. Hein? Microclimat en 2006, Dialogue de Sourds en 2008, Le Live en 2009, Écho du Temps en 2011.
Voilà. On retrouve Danakil sur Internet via votre site officiel, hein, danakilweb.free.fr.
Ouais.
Voilà, ça aussi c'est important parce que c'est .free.fr, c'est la liberté, c'est Danakil aussi.
Ouais. Le site est en construction, on est encore en train de le terminer. Pour l'instant, il y a forcément les MySpace, les Facebook qui marchent bien, et on est en train de refaire complètement le site danakilweb.free.fr, donc .free.fr.
.free.fr. Voilà. Ouais.
Bientôt, on sera opé sur ce site-là.
Bien. Et puis le plus important pour nous, vous serez en concert avec vos amis de Roots Underground au Transmoteur de Villeurbanne le jeudi 17 mars 2011.
Voilà, il y aura de la surprise déjà ce soir-là. C'est la veille du Zénith, on a des invités qui viennent sur scène.
Bien. Cool. Eh bien, Balik, bonne chance pour la suite de vos aventures.
Merci beaucoup.
Bon concert et puis à bientôt sur Tropic FM.
Ouais, j'espère. À bientôt. Merci.
Au revoir.
En tout cas.
Salut. Ciao.